Chapitre 3. Catalyseur. Le long d'un bras mort du fleuve, non loin de la cité du désert des pluies, on trouve d'énormes fûts de ce qu'on appelle ici « bois sorcier ». Le marin m'a expliqué qu'il s'agit d'une sorte de cocon sécrété par les serpents au cours du processus de leur transformation en dragon. On prête de grandes vertus magiques à ce prétendu bois. Les objets fabriqués dans ce matériau peuvent s'éveiller peu à peu à la vie, et c'est, dit-on, l'élément constitutif des vives nefs des marchands de Terrilville. Réduits en poussière et échangés entre amants, il leur permettrait de partager leurs rêves. Ingérés en plus grande quantité, ils deviendraient toxiques. Quand je lui ai demandé pourquoi on laissait sans protection un produit aussi précieux au bord d'un fleuve, le marin m'a répondu que Tintaglia, le dragon femelle, et sa portée le gardaient comme un véritable trésor. De fait, m'a-t-il dit, une simple écharde de ce bois vaudrait qu'on risque sa vie. J'ai bien tenté de lui graisser la patte afin qu'il m'en procure un échantillon, mais j'ai essuyé un échec total. Rapport d'espionnage anonyme à un breton étoile. L'homme noir avait raison. La nuit la plus obscure n'aurait pu me dissimuler mon chemin. Néanmoins, suivre les trois sentiers à flanc de falaise, dans la pénombre, n'en resta pas moins une gageure. Pendant mon séjour dans la grotte, de lents ruisselets d'eau l'avaient traversé pour former des serpents de glace sous mes pas, et je faillis tomber par deux fois. Parvenu en bas, je suivis des yeux le parcours que je venais d'achever et m'étonnais d'avoir réussi à le suivre sans accident. C'est là que je vis mon chemin, ou du moins son point de départ. Plus haut, le long de la falaise, passé la porte de l'homme noir, une lueur très pâle émanait de la roche vernie de glace. J'avais déjà vu cet horrible éclat, et un frisson d'angoisse me parcourut. Avec un soupir, je repris l'ascension du sentier escarpé. Même de jour, l'entreprise eût été périlleuse. Le bref repos dont j'avais joui chez l'homme noir avait sapé plus qu'il n'avait restauré mon énergie. Et je m'imaginais plusieurs fois retournant dans sa caverne chaude et accueillante pour y dormir jusqu'au matin. Mais comme un désir qui resterait inassouvi plutôt que comme une véritable possibilité. À présent que j'approchais du but, j'éprouvais une soudaine répugnance à y faire face. Le temps qui m'en séparait instaurait jusque-là une légère distance entre ma douleur et moi-même, mais je savais que cette nuit, j'allais affronter mon deuil et en supporter tout l'impact. Avec une impatience paradoxale, je souhaitais que tout fût déjà terminé. Quand je parvins enfin à la fissure d'où irradiait la terne luisance, je la découvris à peine assez large pour y pénétrer. L'eau qui ruisselait lentement le long de l'escarpement la refermait peu à peu en gelant. Sans doute l'homme noir devait-il y monter chaque jour pour la maintenir ouverte. À l'aide de mon couteau, je cassai le rideau de glace jusqu'à dégager un passage assez grand pour m'y faufiler avec mon sac à dos. Une fois à l'intérieur, je dus me placer de biais pour progresser vers la lumière pâle et traîner mon paquetage derrière moi. La crevasse s'élargit très lentement et quand je me retournais, le chemin que je venais de parcourir ne me parut guère prometteur. On eût juré qu'il s'achevait en cul-de-sac. Le passage se rétrécit, puis tourna légèrement avant de déboucher sur un couloir en pierre taillée. Un des globes de la femme pâle y brillait. C'était sa lumière diffuse qui m'avait conduit jusque-là. Je jetai des coups d'œil prudents à droite et à gauche avant de m'y aventurer. Rien n'y bougeait. Dans le silence, je percevais le bruit de gouttes d'eau qui tombaient au loin et jusqu'au grincement étouffé du glacier qui se déplaçait. Mon vif me disait qu'il n'y avait pas âme qui vive, mais, dans ce palais glacé, cela ne me rassurait guère. Quelle garantie avais-je que tous les forgisés avaient repris leur sens? Je levai le nez et humais l'air à la façon d'un loup, mais ne captais que l'odeur de la glace et de faibles traces de fumée. Je restai un moment indécis sur la direction à prendre, puis sans réfléchir, choisis la gauche. Avant de me mettre en route, je fis une légère marque à hauteur d'yeux sur le mur près de la fissure, affirmant par ce petit geste que je comptais ressortir. Et de nouveau, j'arpentais les couloirs froids du domaine de la femme pâle. Tous semblables dans leur austérité, ils suscitaient chez moi une affreuse impression à la fois de déjà-vu et d'absolue étrangeté. Il me rappelait un lieu que j'avais visité, sans que je puisse mettre le doigt sur un souvenir précis. Dans ce royaume souterrain, rien ne me permettait de mesurer le passage du temps. L'éclat des globes restait uniforme, sans nulle variation. Au bout d'un moment, je me surpris à me déplacer à pas de loup et à négocier chaque tournant avec prudence. J'avais le sentiment d'explorer une tombe, et cela ne tenait pas seulement au fait que je cherchais le corps du fou. Peut-être seuls les mouvements de l'air dans les tunnels glacés en étaient-ils responsables, mais il me semblait entendre constamment un faible murmure à peine audible. Divers indices montraient que la zone de la forteresse glacée où je me déplaçais ne servait plus depuis longtemps. La plupart des salles qui ouvraient sur le couloir ne recélaient aucun mobilier. Des rebuts jonchaient le pavé poussiéreux de l'une d'elles. Une chaussette trouée, une flèche brisée, un bout de couverture en lambeaux et un bol ébréché. Dans une autre, de petits cubes de pierre de mémoire gisaient éparpillés, manifestement jetés du haut des longues étagères étroites fixées au mur. Qui avait occupé ces pièces? Et à quelle époque? Avaient-elles servi de retraite aux équipages des pirates rouges entre deux attaques? Ou bien, si j'en croyais l'homme noir, d'autres les avaient-ils bâties et habitées? À l'œil, j'estimais la date de leur construction bien antérieure à la guerre avec les îles d'outre-mer. En haut des murs, hors de portée des vandales occasionnels, des vestiges de bas-reliefs laissaient voir un visage de femme étroit, un dragon en plein vol, un roi mince et de haute taille. Il ne restait de ces œuvres que des fragments, et je me demandais si la femme pâle avait ordonné leur destruction ou si, tout simplement, les forgisés avaient passé le temps en effaçant toute trace de beauté. L'évidence mit du temps à m'apparaître, mais je finis par me poser la question. Souhaitait-elle éradiquer toute preuve que ces habitations avaient appartenu jadis aux anciens? S'agissait-il des êtres que l'homme noir désignait comme ceux d'autrefois et qu'il avait vus périr dans ces mêmes pièces? Le couloir de pierre que je suivais se prolongeait par un autre, taillé à même le glacier, et en un seul pas, je passais de la roche noire à la glace bleue. Une dizaine d'enjambées encore et j'entrais par une porte sculptée dans une immense salle voûtée. Des motifs de plantes grimpantes et fleuries décoraient les énormes piliers de glace qu'on avait laissés pour soutenir le plafond bleuté. Le temps avait adouci leurs contours et les eaux de fonte obscurci leurs dessins, mais leur grâce demeurait. Je me trouvais dans un parc pétrifié, baigné d'une lumière crépusculaire par une grosse lune enchâssée dans le plafond, où des globes plus petits semblaient des constellations. On eût logé deux jardins comme celui des femmes à Castelserre dans cette salle manifestement conçue dans un esprit d'élégance et de beauté. Mais les parties basses, les fontaines de glace aux formes fantastiques et les bancs ornementaux montraient partout des signes de dégradation, où l'on sentait la colère et la malveillance plutôt que le désœuvrement. Dressé sur un pilier translucide, seul restait d'un dragon le corps. On lui avait brisé les ailes et fracassé la tête. Une forte odeur de vieille urine l'environnait et des dégoulinades jaunes en corrodaient le piédestal, comme s'il n'avait pas suffi de détruire la représentation de la créature. Je traversai les jardins de glace et découvris un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les profondeurs. Jadis, sans doute y avait-on taillé des marches, voire une balustrade, mais le temps et un lent processus de fonte avait transformé les degrés en pente irrégulière et traîtresse. Je tombais à plusieurs reprises et musais les ongles sur les parois à freiner mes glissades en me mordant la joue pour supporter les chocs sans crier. Les déprédations de la salle m'avaient rappelé la haine dont était capable la femme pâle et je craignais qu'elle ne rôdât encore dans le labyrinthe figé dans le froid. J'arrivais au bas de ma descente, endolori et découragé. Je préférais ne pas songer à la manière dont je m'y prendrais pour remonter. Un large couloir s'éloignait tout droit pour se perdre dans des lointains bleutés. À intervalles réguliers, des globes illuminaient des niches vides pratiquées dans les murs. Dans l'une, je remarquais deux pieds surmontés de jambes tronquées. Dans une autre, la base d'un vase. Ainsi, à une époque, elles avaient abrité des sculptures, et le passage que je suivais formait une sorte de galerie. Un tunnel fonctionnel, dépourvu de tout ornement, s'ouvrit d'un côté, et je l'empruntai, presque soulagé de laisser derrière moi l'exposition de beauté brisée. J'y marchais pendant ce qui me parut une éternité. Il descendait en pente douce. À l'intersection suivante, je pris à droite, car il me semblait savoir où je me trouvais. Je me trompais. J'avais pénétré dans un dédale de glace aux carrefours innombrables. Des portes s'alignaient le long de certains couloirs, mais le froid les avait bloquées et nulle fenêtre ne perçait les murs. J'inscrivis une marque à chaque croisement, mais ne tardai pas à me demander si je retrouverais jamais mon chemin. Je tâchais toujours de suivre le passage le plus large ou qui montrait des traces de fréquentation récente. Ces derniers signes devinrent plus évidents à mesure que je m'enfonçais dans la cité de glace, car j'avais désormais la certitude qu'il s'agissait bien d'une ville. Je me demande, rétrospectivement, si les anciens avaient simplement accepté l'invasion de la glace qu'ils avaient ensuite façonnée à leur convenance, ou bien s'ils avaient d'abord construit en employant la pierre de l'île, puis étendu leur territoire en creusant le glacier. Plus je progressais par les tunnels et les salles où avait résidé la femme pâle et ses forgisés, plus j'avais le sentiment de m'éloigner de la grâce et de la beauté des anciens pour m'embourber dans la crasse et les instincts destructeurs de l'homme, et j'avais honte de mes semblables. Les indices d'habitation récents apparurent. Des seaux de toilette pleins traînaient dans les coins des casernements ou de ce qui y ressemblait fort. Des pots de couchage jonchaient le sol au milieu des déchets habituels d'une salle de garde. Néanmoins, je ne vis aucune des affaires que les soldats conservent en général dans leur dortoir. Des pions, amulette porte-bonheur offerte par les bonnes amies, chemise pliée avec soin en prévision d'une soirée à la taverne. Les salles trahissaient une existence dure, sans plaisir et sans humanité, une existence de forgisé. J'éprouvais un soudain élan de pitié pour ceux qui avaient perdu des années de leur vie au service de la femme pâle. Plus qu'à ma mémoire, je dus à la chance de parvenir finalement dans la salle du trône. Quand je vis la double porte, une vague d'angoisse me submergea. C'était là que j'avais vu le fou pour la dernière fois. S'y trouverait-il toujours, gisant à terre, au milieu de ses chaînes? À cette perspective, le vertige me saisit et les ténèbres commencèrent à se refermer sur moi. Je m'arrêtai pour respirer profondément, en attendant que passe l'étourdissement, puis, par un effort de volonté, je me remis en route. Par un des battants entrebâillés, une coulée de neige et de glace peu épaisse avait pénétré dans le couloir. À cette vue, mon cœur manqua un battement. Ma quête allait-elle s'interrompre là, bloquée par l'effondrement de l'immense salle et l'avalanche qui s'en était suivie? La neige formait une rampe qui menait derrière les portes. Les jours et les nuits passés depuis l'éboulement l'avaient saisie dans une poigne glacée qui l'avait pétrifiée. Et le tiers supérieur de l'entrée demeurait dégagé. J'escaladai la pente glissante, jetai un coup d'œil dans la salle et restai un moment les yeux écarquillés dans le jour bleuâtre. Lorsque le plafond avait cédé, une avalanche de glace et de neige avait comblé le milieu de l'espace, mais laissé le pourtour à peu près libre. La lumière provenait des rares globes qui avaient échappé à la destruction et qui, pris sous l'amoncellement central, diffusaient une lueur indécise. Combien de temps ces lanternes étranges continueraient-elles à briller? Devait-elle leur magie à la femme pâle, ou bien fallait-il y voir un vestige de l'occupation des anciens? Avec la prudence d'un rat explorant une pièce inconnue, je longeai les murs, là où l'éboulis présentait la plus faible épaisseur, et me frayai un chemin, tant bien que mal, parmi blocs et moraines, en redoutant de trouver ma route barrée. Mais je parvins finalement au trône et pus contempler les ruines de la grande salle. À bout de course, l'effondrement avait épargné la zone. Le siège royal était renversé et brisé, bien que la vague de glace ne l'eût pas atteint, et je supposais qu'il devait ses dégâts au réveil du dragon de pierre. Apparemment, la créature était sortie par le plafond fracturé. Les cadavres de deux hommes gisaient à demi ensevelis en haut de la coulée. Peut-être s'agissait-il des guerriers que Devoir avait affrontés, ou peut-être le dragon les avait-il simplement piétinés en se lançant à l'attaque. Je ne vis pas de traces de la femme pâle. J'espérais qu'elle avait subi le même sort que les deux combattants. Les globes enfouis dispensaient un éclat sourd et indistinct. Dans les ombres bleutées, je contournais le trône effondré en tâchant de me rappeler l'emplacement précis où l'on avait enchaîné le fou au dragon. Il me paraissait impossible désormais que la créature eût présenté les dimensions énormes que mes souvenirs lui prêtaient. Je cherchais en vain des fers brisés ou la dépouille de mon ami. Pour finir, je grimpais sur un monticule de glace et de là scrutais les alentours. Aussitôt, je repérais une tache aux couleurs et aux motifs familiers. Le ventre noué, je m'en approchais lentement, puis m'arrêtais, toute peine noyée par l'horreur et l'incrédulité. Malgré la couche de givre qui les couvrait, je reconnaissais les dessins. Enfin, je m'agenouillais, mais je ne sais plus si je voulais mieux voir ou bien si mes jambes se dérobèrent sous moi. Dans les plis soulignés de rouge, des dragons et des serpents se mêlaient et se bousculaient. Je ne touchais pas le tableau. Je n'aurais d'ailleurs pas eu le courage, mais quand bien même l'aurais-je trouvé, ce n'était pas nécessaire pour le savoir soudé dans le sol. Encore imprégné de chaleur corporelle, il s'était enfoncé dans la glace qui l'avait emprisonné. On avait écorché le fou pour le dépecer du tatouage qui ornait son dos. Je restais à genoux devant le carré de peau comme un homme en prière. À l'évidence, il avait fallu procéder avec lenteur et délicatesse pour l'arracher intact. Il s'était plissé en tombant, mais il s'agissait manifestement d'un pan d'un seul tenant, découpé des épaules à la taille. Il n'avait pas dû être facile de le décoller, et je préférais ne pas songer à la façon dont on avait dû immobiliser le fou, ni qui avait amoureusement manié le couteau. Une nouvelle pensée écarta cette atroce image. Ce n'était pas par esprit de revanche que la femme pâle avait tué ainsi le fou. Lorsqu'elle avait compris que je la bravais et réveillais le dragon, non, elle avait agi par pur plaisir, à loisir, sans doute dès l'instant où l'on m'avait entraîné hors de la salle. Le lambeau froissé, saisi dans la glace, évoquait une chemise sale négligemment jetée dans un coin. Je ne pouvais en détourner les yeux. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer chaque instant de sa lente agonie. Il avait vu cette scène à l'avance, cette mort qu'il avait redouté d'affronter. Combien de fois lui avais-je assuré que je donnerais ma vie avant qu'on ne lui arrache la sienne? Et pourtant, j'étais agenouillé là, bien vivant. Quand je revins à moi, du temps avait passé. Je n'avais pas perdu connaissance. J'ignore où mes pensées s'étaient égarées, mais j'avais l'impression d'émerger d'une période de ténèbres absolues. Je me relevais avec raideur. Je n'avais pas l'intention d'essayer de dégager l'affreux trophée de sa gangue pour l'emporter. Loin de faire partie du fou, il représentait au contraire la marque cruelle que la femme pâle lui avait imposée. Rappel éternel qu'un jour, il devrait la retrouver et lui rendre ce qu'elle avait tatoué sur sa peau. Je le laissais là, figé pour toujours dans la glace. Ma haine devenait de plus en plus noire, ma peine de plus en plus profonde, et je sus soudain, avec une conviction absolue, où reposait la dépouille de mon ami. En me redressant, j'aperçus du coin de l'œil le reflet grisé d'un objet arrondi, non loin de la peau du fou. Je m'en approchais, m'agenouillais, puis dégageais de la main une couche de givre pour découvrir un morceau de la couronne au coq maculé de sang. Une pierre précieuse, dans l'orbite sculptée d'un oiseau, me fit un clin d'œil. Je pris le fragment. Il nous avait appartenu, au fou et à moi, et je tenais à l'emporter. Je quittai la salle en ruine et m'engageai dans des couloirs aussi glacés que mon cœur. Où que je me tourne, ils se ressemblaient tous, et je n'arrivais pas à tenir assez la bride à mes émotions pour me rappeler le chemin qu'on avait emprunté pour me traîner jusqu'à la femme pâle, encore moins la direction du cachot où l'on m'avait enfermé. Je compris alors que je devais d'abord retrouver le premier passage par lequel le fou et moi étions entrés. Il y fallut le reste de la nuit et sans doute davantage. J'errai à l'aventure jusqu'au point où je ne sentis même plus la fatigue. Le froid m'étreignait et je tendais l'oreille pour capter des bruits imaginaires. Je ne voyais trace de vie nulle part. Pour finir, lorsque les yeux commencèrent à me faire mal, à force de rester ouverts, je décidai de me reposer. Je calai mon paquetage dans l'angle d'une petite pièce où l'on avait entreposé du bois, m'assis dessus et m'adossai au mur. L'épée à la main, je posai le front sur les genoux et dormis par à-coups, jusqu'à ce que mes cauchemars me réveillent complètement et m'obligent à reprendre mon chemin. Enfin, Je parvins à la chambre à coucher de la femme pâle. Des stalactites de glace pendaient de ses bras zéro. Là, les globes dispensaient une vive lumière et je pus contempler la pièce dans tous ses détails. Les sculptures somptueuses des armoires à vêtements, la table élégante où elle posait son miroir et ses brosses, ses bijoux scintillants pendus aux branches d'un présentoir argenté. Quelqu'un, dans sa fuite, s'était peut-être livré au pillage, car des habits épars jonchaient le sol devant une des penderies ouvertes. Mais pourquoi n'avait-on pas pris les bijoux? Les fourrures superbes du lit luisaient de givre. Je ne m'attardais pas. Je n'avais nulle envie d'examiner de près les fers fixés au mur derrière le lit, ni les marques sanglantes qu'elles encadraient sur la paroi. Une autre porte bâillait à la suite de celle de la chambre. J'y jetais un coup d'œil en passant, puis m'arrêtais, et y pénétrais. Une table trônait au centre de la pièce, et des casiers à manuscrits couvraient les murs, pleins de parchemins rangés avec soin, roulés et noués à la façon des six duchés. Je m'en approchais. Je savais ce que j'avais découvert. Et pourtant, je restais étrangement insensible. Je tirai un document au hasard et l'ouvris. Je ne m'étais pas trompé. Signé de Maître Boiscoudé, il traitait des règles de conduite des candidats à la formation qui interdisaient formellement les farces où intervenait l'emploi de l'art. Je le laissai tomber par terre et en choisis un autre. Plus récent, il présentait l'écriture ronde et penchée de sollicité. Les lettres dansèrent devant mes yeux, embuées de larmes, et je le lâchai à son tour. Je levai le regard pour en parcourir la salle. J'avais, devant moi, la bibliothèque d'art qui avait disparu de Castelserre, secrètement vendue par Royal pour financer son train de vie fastueux à gué de négoce. Les marchands aux ordres de la femme pâle et de Kébal Pincru avaient acheté au jeune prince les textes qui renfermaient tout notre savoir sur le don des loin-voyants. Notre héritage avait vogué vers le nord, jusque chez les Outriliens pour finir dans la pièce où je me trouvais. Où la femme pâle avait appris comment retourner notre magie contre nous et créer un dragon de pierre. Imbre aurait donné un de ses yeux pour un seul après-midi au milieu de ses manuscrits. Cette connaissance retrouvée constituait un trésor inestimable. Mais, si fabuleux qu'il fût, il ne m'aurait pas donné ce que je désirais le plus au monde, la possibilité de changer le passé. Je secouai la tête, et sortit sans me retourner. Je finis par découvrir les geôles où avaient croupi la mère et la sœur de la Narcheska. Péotre en avait laissé les portes ouvertes lorsqu'il les avait emmenées. La cellule voisine me réservait un spectacle beaucoup plus sinistre. Trois cadavres étendus au sol. Ces hommes avaient-ils péri encore forgisés en se battant entre eux, ou bien la mort du dragon leur avait-elle rendu leur personnalité? Et avaient-ils succombé au froid et à la faim, en pleine possession de leur raison? Le cachot de Crible et d'Est était ouvert lui aussi. Le second gisait face contre terre, dépouillé de ses vêtements. Je fis un effort pour scruter ses traits. Le froid et la vie enfuie avaient noirci son teint, mais je reconnus le jeune homme que j'avais côtoyé. Après une courte hésitation, je le saisis par les épaules et, non sans mal, le soulevai du sol. La tâche n'avait rien d'agréable, car il adhérait fermement à la glace. Je le traînai jusqu'à la cellule de la mère de la Narcheska et le déposai sur le lit de bois. Puis je ramassai, ainsi que dans la geôle voisine, tout ce qui pouvait brûler, vieux chalis et feurs. J'entassai ce combustible autour de lui, puis y versai la moitié du flacon d'huile que j'avais apporté pour la crémation du fou. Il fallut un peu de temps avant qu'un fœtus embrasât, mais dès lors, les flammes s'élancèrent avidement sur le bois et la paille. J'attendis qu'un rideau de feu se fût levé autour du corps, puis je coupai une mèche de mes cheveux et la jetai dans le bûcher funéraire, cadeau d'adieu traditionnel à un camarade tombé dans les six duchés. Tu n'es pas mort en vain, Est. Non, pas en vain, dis-je. Mais comme je m'en allais, en le laissant dans son brasier, je me demandais si nous avions réellement vaincu. Seul le temps nous le dirait. Et je n'eusse pas encore osé affirmer que la libération du dragon représentait une victoire pour l'humanité. Il ne restait plus qu'un cachot, tout au bout du couloir, naturellement. La femme pâle avait dû y placer son prisonnier en signe de suprême dégradation, d'ultime raillerie et de triomphe. Dans la cellule jonchée de détritus et d'excréments humains, près d'un tas d'immondices, je trouvais mon ami. Il vivait encore quand on l'y avait déposé. Elle devait tenir à le savoir conscient de cette dernière indignité. Il avait gagné en rampant le coin le moins souillé, et là, pelotonné, emmitouflé dans une toile de sac crasseuse, il était mort. Pour mon fou que j'avais toujours connu, si soucieux de son hygiène, agonisé dans les ordures et la saleté, n'avait pu qu'ajouter à son supplice. Avait-on jeté sur lui le bout de tissu qui l'enveloppait, ou bien l'avait-il tiré à lui avant de mourir roulé en boule sur le sol glacé? Je l'ignorais. Peut-être ceux qui l'avaient relégué dans cette geôle l'avaient-ils empaqueté ainsi, afin de faciliter son transport. Du sang et d'autres humeurs avaient imbibé la trame grossière et rude, collée par le froid à son corps ramassé. Il avait ramené ses genoux contre lui, plaqué son menton contre sa poitrine, et une expression de souffrance déformait ses traits figés. Sa chevelure brillante pendait en mèches inégales, imprégnées de sang coagulé par endroits. Je n'avais pas prémédité mon geste. Je posai la main sur son front plissé par le froid, puis rassemblai tout mon art et le tendis vers lui. Je ne rencontrai que silence et immobilité. Je plaçai mes paumes sur ses joues et forçai la voix. J'explorai son cadavre en empruntant les passages obstrués où la vie coulait naguère sans effort, et je tentais de le guérir, de le ranimer. « Cours !» commandai-je à son sang, « et vis !» commandai-je à sa chair. Mais son organisme était resté inactif trop longtemps. À contre-cœur, je constatais ce que savent tous les chasseurs. Dès l'instant de la mort, la décomposition commence. Les éléments infimes qui composent la matière charnelle entament la descente qui mène à la pourriture, se décrochent les uns des autres afin d'avoir la liberté de se transmuter. Son sang s'était épaissi, sa peau, qui maintenait le monde à l'extérieur, jouait à présent le rôle d'un sac qui retenait ses viscères en désagrégation. Haletant, je bondais ma volonté pour y insuffler la vie, mais autant chercher à ouvrir une porte dont la rouille a scellé les gonds. Les pièces qui travaillaient séparément jusque-là composaient, agglomérées, une entité immobile. La fonction était devenue inertie. D'autres forces agissaient désormais à désassembler les parties les plus petites, à les fractionner comme la meule réduit le grain en farine. Tous les liens qui les unissaient se défaisaient. Pourtant, je m'acharnais, je m'efforçais de l'obliger à bouger le bras, je m'évertuais à forcer ses poumons à s'emplir d'air.
« Qu'est-ce que tu fais ?»
La question venait de lourd, vaguement agacé que j'eusse interrompu son sommeil, et j'éprouvais soudain une joie sans borne à le sentir présent. Lourd, je l'ai trouvé, le fou, mon ami, sire doré, je l'ai trouvé, aide-moi à le guérir, je t'en supplie, prête-moi ton énergie. Somnolent, il acquiesça à ma requête.
D'accord, je vais essayer.
Je perçus un grand bâillement qu'il ne chercha pas à dissimuler.
« Où est-il ?»«
Ici, ici. » Par l'art, j'indiquai le corps immobile devant moi.
« Où ça ?»«
Ici, voyons, juste sous mes mains lourds. »«
Je ne vois personne. » »«
Mais si, touche-le là, je t'en prie, lourd. » Puis, dans mon désespoir, je projetai plus loin ma supplique. « Devoir, humbre, par pitié, prêtez-moi votre force et votre art pour le guérir, je vous en prie. »
« Qui est blessé ? Lourd ?»
Le vieil assassin avait réagi aussitôt affolé.
« Non, moi je vais bien. Il veut guérir quelqu'un qui n'est pas là. »«
Mais si, j'ai trouvé le fou, Humbre. S'il vous plaît, vous m'avez ressuscité tous ensemble. Par pitié, aidez-moi à le guérir, aidez-moi à le ramener. »
Devoir intervint d'un ton apaisant. « Fitz, nous sommes tous là, et vous savez que nous le ferons pour vous. » La distance risque de nous compliquer la tâche, mais nous essaierons, montrez-le-nous.
Il est ici, ici, j'ai la main sur lui.
Une impatience rageuse me saisit soudain. Pourquoi était-il si obtus? Pourquoi ne voulait-il pas m'aider? Je ne le sens pas, dit Devoir après un long silence. Touchez-le.
Mais je le touche.
Je me penchai et passai mes bras autour de son corps roulé en boule.
Je le tiens contre moi. Je vous en prie, aidez-moi à le guérir.
Ça, ce n'est pas quelqu'un.
Le ton de Lourd trahissait une perplexité manifeste.
On ne peut pas guérir un tas de boue.
La fureur m'envahit.
Ce n'est pas un tas de boue.
Tout va bien, Lourd, ne t'inquiète pas, fit Devoir avec douceur. Tu n'as rien dit de mal. Tu ne parlais pas méchamment.
Puis, il s'adressa à moi.
Fitz, je regrette profondément, mais il est mort. Et Lourd a raison, même s'il exprime sans délicatesse. Son organisme se transforme en autre chose.
Je ne le perçois plus comme un corps vivant, mais comme...
Il s'interrompit, incapable de prononcer les mots qui lui venaient. Charogne, pourriture, viande en décomposition, boue. Aussi posément que s'il me rappelait une leçon que j'aurais dû savoir par cœur, Imbre enchaîna.
La guérison est une fonction du vivant, Fitz. L'art peut l'accélérer, mais c'est la chair qui l'accomplit, à condition qu'elle demeure en vie. Tu ne tiens pas le fou entre tes bras, Fitz, mais une enveloppe vide. Tu ne peux pas plus la ramener à la vie que tu ne peux animer une pierre. Tu ne peux pas la ressusciter.
Pragmatique, Lourd ajouta.
Et puis, même si tu arrivais à la refaire marcher, il n'y a personne à mettre dedans.
Je pris conscience en cet instant, je crois, de la réalité de ce qu'il me disait. Le cadavre qui n'était plus son corps, la disparition de son esprit. Un très long moment s'écoula, me sembla-t-il, puis Imbre dit à mi-voix.
Fitz, que fais-tu ?
Rien. Je reste assis là. Et je constate mon échec. Comme toujours. Comme avec Burick. Il est mort, n'est-ce pas ? Je crus voir l'accablement se peindre sur le visage du vieillard. Je l'imaginais en train de déclarer avec un soupir que je persistais à faire un grand tas de tous mes deuils et toutes mes souffrances et à vouloir les affronter tous à la fois.
Oui, il est mort, avec son fils près de lui et Tram. Nous lui avons tous rendu hommage. Nous avons mis les navires en panne afin de nous trouver ensemble quand on a laissé aller sa dépouille à la mer. Comme tu dois laisser aller le fou.
Je ne tenais pas à accepter ce conseil, ni même à en discuter. On ne perd pas facilement les habitudes de toute une vie. Aussi détournai-je l'attention d'Imbre. J'ai trouvé les manuscrits d'art. La bibliothèque disparue. Elle est ici, dans la place forte de la femme pâle. Quoique ce palais, je pense, ne lui appartint pas. Mes observations me donnent à croire que les anciens l'occupaient avant elle. La réponse d'Imbre me surprit.
Plus tard, Fitz, nous aurons tout le temps de songer à récupérer ces documents. Pour le moment, écoute-moi. Honore ton ami comme tu l'entends, et rends-lui sa liberté. Puis, hâtez-vous, Lourd et toi, de regagner la plage. Je vais revenir à bord du bateau que je vous ai envoyé. J'ai mal jugé l'importance de la mission que tu te donnais. Tu ne dois pas affronter seul une telle peine.
Mais il se trompait. Le chagrin crée sa propre solitude, et il me fallait la supporter, je le savais. Je biaisais, unique façon de l'obliger à demeurer à l'écart. Nous attendrons le bateau sur la grève. Inutile que vous rebroussiez chemin. Il ne nous arrivera rien, j'y veillerai. Mais pour l'instant, j'aimerais un peu de tranquillité. Si ça ne vous dérange pas.
Pas le bateau,
intervint Lourd d'un ton résolu.
Jamais. Non, j'aime mieux rester ici pour toujours.
Lourd ne t'accompagne pas ?
Imbre parut inquiet tout à coup. Non, il vous fournira toutes les explications. J'ai encore une tâche à mener à bien, Imbre.
Merci.
Merci à tous de vos efforts. Et je dressai mes murailles pour me couper d'eux. Je sentis devoir tenter de me contacter, mais même sa délicatesse m'était intolérable pour l'instant. Je me fermais tandis que Lourd évoquait d'un ton ensommeillé la succulente cuisine de l'homme noir. Avant la clôture complète de mes remparts, je perçus un effleurement léger qui aurait pu provenir d'Ortie tentant de me consoler. Mais rien ne pouvait me consoler, et je refusais de l'exposer à ma douleur. Elle en aurait elle-même son lot bien assez tôt. J'achevais de dresser mes murailles. Il était temps de m'occuper de la mort. J'arrachai le corps du fou de la glace, où il laissa le contour de son cadavre ramassé et une poignée de mèches d'or. Je le sentais rigide et froid entre mes bras. Il paraissait peser moins que dans la vie, comme si l'envol de son esprit l'avait dépouillé de la plus grande partie de lui-même. Je le serrai contre moi, sa chevelure brillante et engluée de sang séché sous son menton, le tissu râpeux sous mes doigts, et je m'engageai, creux et vide, comme un arbre foudroyé, dans les couloirs gelés. Nous passâmes devant la cellule où Est continuait de brûler. La fumée de sa chair qui rampait au plafond imprégnait l'air immobile d'une odeur de viande cuite. J'aurais pu lui adjoindre la dépouille du fou, mais cette idée ne me plaisait pas. Mon ami devait disparaître seul, en un dernier adieu, qui ne concernait que nous deux. Je poursuivis mon chemin. Au bout de quelque temps, je m'aperçus que je m'adressais à lui tout haut. Où ? Où veux-tu que cela ait lieu ? Je pourrais te déposer sur le lit de la femme pâle et te brûler au milieu de ses richesses amoncelées. Le souhaiterais-tu ? Ou bien te sentirais-tu souillé du contact avec ce qui lui appartenait ? Où désirerais-je, moi, qu'on dresse mon bûcher ? Sous le ciel de la nuit, je crois, pour laisser monter mes étincelles dans les étoiles. Aimerais-tu cela ? Ou préférerais-tu l'attente des anciens avec tes affaires autour de toi, dans l'intimité qui t'a toujours été si chère? Pourquoi n'en avons-nous jamais parlé? Entre amis, ce sont pourtant des choses qu'on devrait savoir. Mais, tout compte fait, est-ce bien important? Le passé reste le passé. La cendre reste la cendre. Néanmoins, il me conviendrait mieux, je pense, de livrer ta fumée au vent nocturne. Te moquerais-tu de cette pensée ? Dieu, comme je voudrais que tu puisses encore te moquer de moi.
Comme c'est émouvant !
Ta légère raillerie, le petit tranchant ironique, le timbre aussi semblable au sien, firent manquer un battement à mon cœur, qui repartit en cognant dans ma poitrine. Je resserrai mes murailles d'art, mais ne perçus aucun assaut. Je me retournai avec un rictus de haine. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de sa chambre, vêtue d'hermine blanche, ponctuée de petites pointes noires. Le manteau la cachait complètement, des épaules jusqu'aux pieds. Pourtant, malgré cet atour somptueux, elle paraissait hagarde. La sculpture parfaite de ses traits s'était enfoncée, tendue sur ses os, et ses cheveux blancs hirsutes, en mèches raides et entortillées, formaient comme une auréole de paille sèche autour de son visage. Ses yeux délavés avait un aspect terne, comme ceux d'un poisson mort. Debout devant elle, je serrai fort le fou contre moi. Il était mort, je le savais, et elle ne pouvait plus lui faire de mal, mais cela ne m'empêcha pas de reculer dans un mouvement défensif, comme si j'avais jamais pu le protéger d'elle. Elle leva le menton et dénuda ainsi la colonne blanche de son cou.
« Lâche ce cadavre, » dit-elle, « et viens me tuer. »
Peut-être fût-ce le fait de l'entendre exprimer mon instinct premier qui me fit rejeter cette idée. « Non, » répondis-je, et je n'eus soudain plus qu'une envie, qu'on me laisse seul. La mort que je tenais dans mes bras ne regardait que moi, et cette femme était la dernière que je voulais voir assister à mes adieux et se réjouir de ma douleur.
« Allez-vous-en, »
repris-je, sans reconnaître ma voix dans le grondement sourd qui sortit de ma gorge. Elle éclata d'un rire qui évoquait des glaçons se fracassant au sol.
« Que je m'en aille ! C'est tout ! Que je m'en aille ! Ah, vite ce chevalerie loin voyant ! La terrible vengeance que tu m'infliges ! Les ménestrels la chanteront encore dans des siècles. » Alors il se dressa à son bien-aimé dans les bras, et il dit à leur ennemi « Allez-vous-en !»
Elle partit à nouveau d'un rire monocorde, pareil au bruit d'une avalanche de cailloux qui se tarit devant mon absence de réaction. Elle me regarda fixement, un instant l'air égaré, manifestement persuadée que j'allais lâcher mon amie pour m'en prendre à elle. Elle pencha la tête de côté, toujours sans me quitter des yeux, puis, après un moment de silence, déclara d'une voix plus basse.
« Ah, je comprends. Tu n'as pas encore déballé mon petit cadeau. Tu n'as pas encore vu tout ce que je lui ai fait. Attends de voir ses mains, ses doigts si habiles et gracieux, et aussi sa langue et ses dents, sa bouche, d'où s'échappaient tous ces traits d'esprit qui t'amusaient si fort. C'est mon présent pour toi, Fitz Chevalerie, afin que tu regrettes éternellement de m'avoir rejeté avec tant de dédain. »
Elle s'interrompit puis reprit, comme pour me rafraîchir la mémoire.
« Allons, Fitz. C'est maintenant que tu me promets de me tuer si je te suis. »
Les mots mêmes que je m'apprêtais à prononcer, je les ravalais aussitôt. Elle les avait rendus creux et puérils, ou peut-être m'avait-elle fait prendre conscience qu'ils étaient creux et puérils. Je déplaçais le poids de mon fardeau dans mes bras, me détournais et m'éloignais. Je tenais mes murailles d'art fermement dressées, mais si elle tenta un assaut, sa subtilité m'empêcha de le percevoir. Je me sentais vulnérable, dos à elle, et j'avoue que j'avais envie de prendre mes jambes à mon cou. Je m'interrogeais. Pourquoi ne l'avais-je pas tué? La réponse paraissait trop simple pour être vraie. Je ne voulais pas que la dépouille du fou repose sur le sol de son palais pendant que je l'exécutais. En outre, je me refusais à obéir à ses attentes.
« Il t'a appelé !»
me lança-t-elle d'une voix chantante.
Il se croyait sur le point de mourir, j'imagine. Naturellement, il se trompait. Je suis plus doué que ça.
Mais persuadé que la douleur allait le tuer, il t'a appelé.
Bien aimé, bien aimé.
Elle imitait à la perfection la voix du fou au supplice, au point que je sentis les poils se hérisser sur ma nuque, comme s'il s'adressait à moi par-delà la tombe. Malgré moi, je ralentis le pas. Serrai le corps de mon ami plus fort contre moi, inclinai la tête plus près de la sienne. Je m'aperçus avec horreur que les propos de la femme pâle me tiraient des larmes. J'aurais dû la tuer. Pourquoi ne la tuais-je pas?
Il parlait de toi, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, même si tu ne le sais peut-être pas.
Tu ne connais sans doute pas les coutumes de son peuple d'origine, l'échange des noms en signe des liens que les gens forment pour la vie. L'as-tu jamais appelé par ton nom pour lui montrer qu'il t'était aussi cher que ta propre existence? Eh bien, où ta lâcheté t'en a-t-elle empêché, dis-moi?
L'envie de la tuer m'étreignait, mais j'aurais dû pour cela poser le fou à terre, et je m'y refusais. Elle ne réussirait pas à m'obliger à l'abandonner encore une fois. Je ne le poserais pas, et je ne me retournerais pas vers elle. Je courbai les épaules sous la grêle de ses exclamations et poursuivis mon chemin.
« Dis-moi, dis-moi, dis-moi !»
Je m'attendais à ce que sa voix diminue à mesure que je m'éloignais. Mais elle la poussa davantage, et elle continua de me jeter sa question avec une fureur et une haine croissante. Je compris au bout d'un moment qu'elle me suivait. Ses cris répétés avaient pris la tonalité rauque des corbeaux qui s'invitent mutuellement au festin royal d'un champ de bataille.
« Dis-moi, dis-moi, dis-moi !»
Même quand je l'entendis se mettre à courir derrière moi et sus qu'elle allait m'attaquer, je ne pus me résoudre à lâcher le corps du fou. Je me retournai de trois quarts et opposai l'épaule à son assaut exaspéré. Elle n'avait pas dû prévoir cette réaction, espérant peut-être que je l'affronterais l'épée au clair. Elle voulut s'arrêter, mais le sol glacé la trahit et elle me heurta de plein fouet. Le choc me propulsa contre le mur, mais par miracle, je réussis à garder le fou dans mes bras et à conserver mon équilibre, pas elle. Elle s'abattit sur le flanc et poussa un cri de douleur d'une voix râpeuse. Je l'observais, surpris, en me demandant comment une simple chute pouvait lui causer pareille souffrance. Puis, comme elle s'efforçait de se relever, je vis ce qu'elle m'avait caché jusque-là. Crible n'avait pas menti. Ses bras s'achevaient par des moignons noircis et fripés, dont elle essayait vainement de se servir pour se remettre sur pied.
Elle ne parvenait pas à se redresser, ni à les dissimuler sous son manteau. Je plantai mon regard dans ses yeux délavés et déclarai avec froideur : c'est vous qui êtes lâche. À l'instant décisif, vous n'avez pas pu renoncer à vous-même pour réaliser votre vision du monde. Vous n'avez pas eu son courage. Lui a accepté le prix que lui imposait le destin. Il a subi son supplice et sa mort de son plein gré, et il a gagné. Il a triomphé. Vous avez échoué. Elle laissa échapper une exclamation, mi-hurlement, mi-clapissement, empreinte de haine et de rage, et en frappa mes murailles d'art sans parvenir à les rompre. Tirait-elle naguère de Kébal Pincru sa puissance dans cette magie? Elle poursuivit ses efforts pour se relever, mais son long manteau la gênait, car ses genoux reposaient sur l'ourlet. Les pieux noirs de ses bras ne lui étaient d'aucune utilité. Du coude au poignet, racorni, il s'effilait pour s'achever par une extrémité pointue et carbonisée. On distinguait les vestiges des os de l'avant-bras, mais plus rien ne restait de la main ni des doigts, engloutis par le dragon, avant qu'elle ne réussît à s'arracher à son emprise. Je me remémorais la façon dont Vérité puis Caudron avaient disparu, fondus dans la créature qu'ils avaient sculptée avec amour pour le bien de leur peuple. Alors, je lui tournai le dos à nouveau et m'éloignai.
« Halte ! » cria-t-elle.
Il y avait de l'indignation dans sa voix.
« Tu dois me tuer ici. Je l'ai vu 100 fois dans mes cauchemars. Tu dois me tuer ici, maintenant. C'était mon sort si j'échouais. » Je le redoutais, mais je l'exige à présent. Mes visions ne m'ont jamais trompé. Le destin te commande de me tuer. »
Sans même prendre le temps de réfléchir, je lançai par-dessus mon épaule. « Je suis le catalyseur. Je change les événements. D'ailleurs, nous vivons désormais dans le monde qu'avait choisi le fou. C'est dans son avenir que j'avance, et dans sa vision de l'avenir, je vous abandonne. » Vous mourrez seul, lentement. 10 pas encore, puis elle lança un hurlement qui dura jusqu'à ce qu'elle perde le souffle. Alors, je n'entendis plus que ses halètements. Je continuai de m'éloigner.
« Tu restes le catalyseur !»
me cria-t-elle d'une voix suraiguë où ne perçait plus que l'hébétude et le désespoir.
« Si tu refuses de me tuer, reviens et sers-toi de ton art pour me guérir. Je serai en tout ta servante. Tu pourras faire de moi ce que tu voudras. Je pourrai t'enseigner ce que j'ai appris dans les manuscrits d'art. Tu détiens le pouvoir d'employer cette magie. Rends-moi mes mains et je te montrerai la voie qui conduit à la grandeur. Tu deviendras le roi légitime des 6 duchés, des îles d'outre-mer, des rivages maudits tout entiers, tout ce que tu désireras. Je réaliserai tous tes rêves si tu acceptes de revenir. »
Mon rêve, je le tenais dans mes bras et il était mort. Je poursuivis ma route. J'entendis les raclements des moignons de ses bras rabougris sur la glace. L'image me vint d'un scarabée qui tente désespérément de s'échapper d'une cuvette. Je ne me retournai pas. Fugitivement, je me demandais si elle avait jamais prévu cette scène, si elle avait jamais eu la vision de mon dos en train de s'éloigner. « Non, » me répondis-je avec une brusque certitude. L'homme noir me l'avait dit. Je marchais dans le monde du fou désormais, dans l'avenir qu'il avait créé. Elle ne voyait plus rien, ne pouvait plus rien prédire. Ce temps n'était pas le sien, mais celui qu'avait choisi le fou. Je ne me considère pas comme quelqu'un de cruel. Pourtant, jamais je n'ai pu éprouver le moindre remords quant à ma décision. J'entendis la femme pâle pousser un grand cri, comme un animal du fond d'un piège, mais je ne jetai pas un regard en arrière. Je tournai un angle du couloir et continuai de suivre le chemin qui m'avait conduit jusque-là. Je souffrais indiciblement de la fatigue, du froid et de la faim. Néanmoins, rien de tout cela ne me consumait autant que mon chagrin. À un moment, les larmes me montèrent aux yeux. Elles tombèrent sur la chevelure dorée du fou et brouillèrent le dédale bleuté des tunnels. Dans mon hébétude, Je dus manquer une des marques que j'avais gravées dans les murs, quand je me rendis compte. Je fis demi-tour, mais me retrouvai dans un couloir qui ne m'évoquait rien. Parvenu au pied d'un escalier de glace érodé, je tentai de le gravir, mais, encombré par mon fardeau, j'échouai. Je revins à nouveau sur mes pas et poursuivis ma route, complètement perdu. Plus tard, j'étendis mon manteau par terre et dormis, un bras protecteur sur le corps gelé du fou. À mon réveil, je fouillai mon paquetage et en tirai un morceau de pain de voyage que je mangeais. Je me désaltérai à ma gourde, puis j'humectai le coin de mon vêtement et m'en servis pour débarbouiller un peu le visage crispé de mon ami, couvert de sang et de crasse. Hélas, je ne pus effacer la souffrance qui marquait ses traits. Je me redressai, le pris dans mes bras et me remis en chemin sans aucun point de repère dans la lumière pâle et invariable. Peut-être une légère pointe de folie s'était-elle emparée de moi. Je pénétrai dans un couloir dont une paroi était de glace, l'autre de pierre. J'aurais dû revenir sur mes pas, mais, comme un papillon attiré par la lumière, j'empruntai le passage à la pente ascendante. Il me conduisit à des marches taillées dans le roc que je gravis. L'éclat bleuâtre des globes ne changeait jamais, ni plus vif, ni plus terne, si bien que je portais le corps du fou dans un dédale sinueux d'escaliers peu escarpés qui montait sans cesse dans un monde où le temps n'existait pas. Je fis une pause sur un palier pour reprendre mon souffle et remarquai là une porte en bois trop sec et devenue cassant. Je l'ouvris dans l'espoir de trouver du combustible pour le bûcher funéraire. Si je doutais encore que ce domaine frigide eût un jour appartenu aux anciens, la salle qui s'offrit à mes yeux dissipa mes dernières incertitudes. J'avais déjà vu des meubles semblables alors que je déambulais d'un pas mal assuré dans les rues désertes de la cité près du fleuve, et j'avais déjà vu une carte semblable, bien que celle-ci parût représenter un monde entier plutôt qu'une ville et ses environs. Elle reposait sur une table au milieu de la pièce, ronde, mais non plate ni dessinée sur du papier. Archipel, côte, pointe de vagues, tout avait été sculpté en relief. De minuscules rangées de montagnes saillaient et la mer avait un aspect froissé. Des cours d'eau brillants traversaient en lacets des prairies pour se jeter dans l'océan. Une île, sans nul doute asléviale, en occupait le centre exact, et d'autres parsemaient les eaux alentour. Au sud-ouest, je reconnus les rivages des six duchés et distinguai quelques erreurs subtiles dans le détail. Au nord s'étendait une terre dont j'ignorais le nom, et de l'autre côté, d'une vaste étendue d'eau, une côte là où la tradition affirmait que seul régnait l'océan. De petites pierres précieuses piquetaient la carte, apparemment au hasard, chacune accompagnée d'une rune. Certaines paraissaient luire d'un éclat intérieur. L'une d'elles, blanche, scintillait sur Asclévial. Quatre autres, disposées en un minuscule carré, illuminaient l'embouchure de la serre. J'en repérai ainsi une poignée dans les six duchés, certaines brillantes, d'autres ternes, davantage au royaume des montagnes, et toute une succession le long du fleuve du désert des pluies, bien que nombre d'entre elles fussent éteintes. Je hochai lentement la tête à part moi. Oui, évidemment. J'avais vaguement conscience de la douleur dans mes bras et mon dos. Pourtant, il ne me vint pas à l'esprit que je pusse me décharger de mon fardeau et me reposer un moment. Aussi inévitable que le coucher du soleil, une porte donnant sur un autre escalier m'attirait dans un angle de la salle. Je la franchis. Le colimaçon était plus étroit que le précédent et les degrés plus raides. Je m'y engageai lentement, tâtonnant du pied pour trouver chaque marche. La lumière se mit à changer peu à peu. L'éclat bleuâtre s'effaça pour laisser la place à la lumière incertaine du véritable jour. Enfin, j'émergeais dans la salle d'une tour sainte de fenêtres vitrées. Un des panneaux de verre présentait une lézarde, et du givre les recouvrait tous. À la forme du plafond, je devinais un toit en flèche prolongée d'avancées protectrices. Je collai l'œil à la fissure de la vitre, mais ne distinguais que de la neige soufflée par le vent et rien d'autre. Au centre de la pièce se dressait un pilier d'art. Les runes gravées sur ses flancs présentaient la même netteté qu'au jour de leur exécution.
J'en fis lentement le tour, jusqu'à ce que je repère le glyphe que j'attendais. Je hochai la tête, serrai le fou contre moi, et murmurai dans ses cheveux collés de sang. « Eh bien, rentrons. » Je tendis la main, paume en avant, et nous pénétrâmes dans la colonne. J'ignore si l'usage récent que j'avais fait de l'art m'avait rendu plus expert ou bien si le pilier opérait mieux que d'autres que j'avais traversés. En tout cas, le fou dans mes bras, je passais de l'hiver à l'été, d'une tour de pierre aux vestiges d'une vaste place de marché. Tout autour d'elle, un bourdonnement estival montait de la forêt qui en avait grignoté les abords. Je fis deux pas encore, puis tombai à genoux, à la fois épuisé et soulagé. En ce lieu, il ne me parut plus blasphématoire de déposer mon ami sur la pierre et la terre propre. Je m'assis lourdement à ses côtés et repris mon souffle. Pendant un long moment, le silence régna, seulement interrompu par le chant des oiseaux et le fredonnement des insectes, tout à leur tâche. Je suivis des yeux la route envahie d'herbes, semblable à un tunnel à travers la verdure des bois qui me ramènerait, si je l'empruntais, au jardin de pierre où dormaient les dragons des anciens. Puis, je levai les yeux vers le pilier, au sommet duquel, jadis, un fou adolescent s'était juché, et que j'avais vu transformé en jeune femme au teint blanc et au front ceint d'une couronne ornée de coques. « Ici, c'est bien, » dis-je à mi-voix. « Je suis content que nous y revenions. » Je m'adossai à la colonne, fermai les yeux et m'endormis. Il fallut du temps pour que la chaleur de l'après-midi s'infiltre en moi. À mon réveil, j'avais trop chaud. Le corps du fou dégelait et s'amollissait au soleil. J'ôtais mes vêtements hivernaux comme je me fusse défait d'une mue et ne gardais que ma tunique et mes chausses. À présent que nous nous trouvions sur la place, seuls et ensemble, tout sentiment d'urgence m'abandonna. Il y avait du temps ici, du temps qui n'appartenait qu'à nous, du temps pour accomplir convenablement la tâche que je m'étais fixée. Je remplis ma gourde à la rivière, où nous avions bu autrefois, puis je lavai le visage du fou, doucement, essuyai le sang sur ses lèvres et rabattis ses cheveux sur son oreille à demi arrachée. Quand il se fut assez réchauffé, je décollai la toile sac de sa chair à vif, et je restai d'abord assommé d'horreur devant le spectacle qui s'offrit à moi. Oui, elle avait raison. Je regrettais de lui avoir tourné le dos et de ne pas lui avoir infligé la mort lente et pénible qu'elle méritait. Mais, tandis que je redressais autant que possible les membres raides et marqués par les tortures, puis en nettoyait la crasse et le sang coagulé avec des poignées de feuilles et d'herbes propres, toute haine s'épancha de moi. C'était mon fou qui gisait devant moi, et si je n'avais pu le sauver, je pouvais lui faire quitter cette vie avec dignité. Il s'était roulé en boule autour de son dernier trésor, et ses mains inertes tenaient toujours la couronne au coq. Je retirai délicatement le cercle de bois gris d'entre ses doigts aux ongles arrachés. Ses bourreaux avaient cassé la parure, sans doute pendant qu'il le battait à mort, mais il l'avait réparé avant de mourir. Quand je vis par quel moyen, en se servant en guise de colle de son propre sang qui, en séchant, avait lié les fragments, l'émotion me suffoqua. Il manquait un morceau. Cela avait-il rendu sa mort plus douloureuse encore? Lentement, je tirai de ma bourse l'éclat de bois que j'avais trouvé dans la salle du trône. Il suffisait de le rajouter pour clore le cercle. J'en trempai les bords dans le sang qui se fluidifiait en dégelant et le joignis aux autres pour compléter la couronne. Sous l'effet de l'humidité, le bois enfla et remplit les interstices si bien qu'on eût dit la parure intacte. J'ignorais la nature exacte de ce trésor, mais quelle que fût la signification que le fou lui prêtait, il le porterait pour abandonner notre monde. J'allais casser des rameaux de conifères et ramasser des branches mortes, des brindilles et de l'herbe sèche pour le bûcher. Le soir approchait avant que j'eusse achevé de le bâtir. Quand il fut prêt, j'y étendis mon manteau. Le firmament bleu marine luisait et l'été semblait retenir son souffle dans l'attente des premières étoiles. Les étincelles du brasier monteraient à leur rencontre. Je pris le fou dans mes bras, le déposai sur mon manteau Par expérience, je savais que le bois de résineux s'enflammerait aisément et le consumerait. Le cœur lourd, je m'assis sur le pavé à côté de lui, la couronne au coq sur les genoux. Il ne lui manquait qu'un détail pour qu'elle fût complète. Je pris dans mon sac à dos un paquet enveloppé de tissu que je déroulai délicatement. Puis, une par une, je déposai devant moi les plumes découvertes sur la plage des autres, en m'émerveillant chaque fois de leur facture et de leur extraordinaire finesse d'exécution. Malgré les distances qu'elles avaient parcourues avec moi, elles demeuraient intactes. Mais pourquoi avoir choisi un bois aussi terne pour créer une œuvre aussi raffinée? Cela me dépassait. Il avait aussi peu d'éclat et d'intérêt que celui de la flèche que le fou avait donnée à l'est. Il me fallut un petit moment pour en ficher chaque plume à la place qui lui revenait. En effet, je ne l'avais pas remarqué, mais l'extrémité de chacune présentait une fine encoche, qui ne lui permettait de s'enfoncer correctement que dans le trou correspondant. Alors que je fixais la dernière, j'eus l'impression qu'une onde colorée balayait la parure. Peut-être ne s'agissait-il que d'un arc-en-ciel fugitivement déployé dans les larmes qui perlaient à mes yeux. Je les essuyai d'un geste impatient. Il était temps d'en finir. La couronne émettait un murmure inquiétant dans ma main, comme une mouche prisonnière d'un point. Que tenais-je donc entre mes doigts? Quelle puissante magie des anciens se tenait enfermée dans cet objet et n'en sortirait plus jamais à cause de la mort du fou? L'espace d'un instant, j'examinai les têtes de coq sculptées qui ornaient son pourtour. Ou bien le fou n'avait jamais trouvé le temps de les peindre en concordance avec nos souvenirs, ou bien la peinture n'avait pas tenu. Des écailles de couleur demeuraient dans les plus profonds recoins. De petites pierres précieuses scintillaient au creux de deux orbites. Les autres yeux étaient vides et inexpressifs. Des sutures noires marquaient les cassures qu'avait subies le cercle de bois et que le fou avait réparées avec son propre sang. De l'index, je tapotais prudemment une des fractures pour en éprouver la solidité. Elle résista, et tout à coup, l'image de mon fou vivant me revint à l'esprit, si complète et poignante que je me sentis comme éventré de chagrin. Je m'assis lourdement sur le bûcher à côté de lui. La rigidité qui vient au cadavre l'avait maintenu dans sa position défensive, replié sur lui-même, et je n'y avais rien pu faire. Je regrettais aussi de ne pouvoir effacer avant son départ la terreur et la souffrance qui creusaient ses traits. Je repoussais ses cheveux d'or de son visage ambré. « Oh, bien-aimé !» m'exclamai-je. Je me penchai pour baiser son front. Je compris alors soudain la justesse de la tradition étrangère, et je lui donnai mon nom. En brûlant son corps, je me tuerai moi-même, je le savais. L'homme que j'avais été ne survivrait pas à sa disparition. Adieu, fit ce chevalerie loin-voyant. Je pris la couronne afin d'en ceindre sa tête, et j'eus tout à coup l'impression que toute mon existence n'avait servi qu'à me conduire à cet instant. Quelle cruauté que le courant le plus puissant de mon existence me mène à cette mort et à ce chagrin absolu. Mais il ne me restait plus d'autre choix. Il est certaines choses qu'on ne peut changer. L'heure avait sonné de couronner le fou du roi et de le laisser partir. J'interrompis mon geste et, ce faisant, j'eus le sentiment de me dresser seul contre le sort, de défier le cours du temps. Je savais ce que le destin attendait de moi. Je devais ceindre le front du fou, puis verser l'huile sur le bûcher. Une étincelle, deux tout au plus, suffirait à embraser le bois sec de l'été. Mon ami se consumerait entièrement et sa fumée s'envolerait avec le vent du pays au-delà du royaume des montagnes. Alors, je m'en retournerais. Par le pilier, sur Aslevial. J'irai chercher Lourdes, nous regagnerions la petite baie où le bateau de retour s'en viendrait nous embarquer. C'était juste, c'était inévitable, c'était la voie que le monde tout entier souhaitait emprunter. La vie continuerait sans le fou parce qu'il avait péri. Tout cela m'apparaissait avec clarté, comme si je connaissais depuis toujours la fin de l'histoire. Il était mort. Rien ne pouvait changer cela.
Mais j'étais, moi, le changeur. Je me redressai brusquement. Je levai la couronne bourdonnante et la brandis au ciel.
« Non !»
hurlai-je. J'ignore à qui je m'adressais.
« Non ! Faites que ça se passe autrement, pas ainsi. Prenez ce que vous voulez de moi, mais que tout ne s'achève pas ainsi. Qu'il prenne ma vie et me donne sa mort, qu'il devienne moi et moi lui. Je prends sa mort, vous m'entendez ? Je prends sa mort pour moi !»
Je présentai la couronne au soleil. À travers les larmes que je versais, elles brillaient d'un éclat iridescent et les plumes semblaient ondoyer doucement dans la brise estivale. Alors, avec un effort presque physique, je l'arrachai au cours prédestiné du temps et l'enfonçai brutalement sur ma propre tête. Le monde se mit à tournoyer autour de moi. Je m'étendis sur le bûcher funéraire, pris mon ami dans mes bras et m'abandonnai à l'inconnu.